Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Radio.
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 Bonsoir et bienvenue sur Radio Pirate. Ce soir, je suis avec Diba et Johan pour vous parler handicap, mais surtout validisme. Qu'est-ce que le validisme? Comment se construit cette oppression? Comment sa pensée a été théorisée par les actrices, acteurs, actrices et militants de l'antivalidisme? C'est un peu tout ça dont on va vous parler ce soir. On sera avec vous dans quelques instants. Prenez le temps de vous installer plus ou moins tranquillement au son de la chanson « Chelou » par Joe et Gluten, et on arrive.
1, 3, 1, 2...
Les gens sont chelous quand t'es chelou, te font la gueule quand t'es tout seul. Sale cercle vicieux, ouais désolé mon chou, mais y'a jamais de repos pour les gens comme nous. Quand t'es chelou, tout le monde te traîne dans la boue. Quand t'es chelou, tu peux crever, tout le monde s'en fout. Quand t'es chelou. Quand t'es chelou, quand t'es chelou. Quand t'es chelou, tout le monde te traîne dans la boue. Quand t'es chelou, tu peux crever, tout le monde s'en fout. Quand t'es chelou, quand t'es chelou, quand t'es chelou. Quand je regarde le monde du chelou, je vois que ça. Et si pas chelou veut dire pas voir plus loin que soi, je vous laisse la norme et moi, je reste là. Et dis-moi qui décide qui est chelou ou pas. Quand je regarde le monde du chelou, je vois que ça. Et si pas chelou veut dire pas voir plus loin que soi, je vous laisse la norme et moi, je reste.
Bonsoir les pirates, comme tous les soirs, l'équipage est sur le pont, et aujourd'hui on revient avec une émission sur le handicap et sur la notion de validisme.
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Donc on est ravis d'être là avec vous ce soir pour parler handicap et validisme. Moi c'est Bart et je vous accueille. Je vais animer l'émission, mais ceux qui vont réellement vous parler du sujet et qui ont construit cette émission, ce sont Élie, Diba et Johan. Alors Élie devait être avec nous, mais elle n'a finalement pas pu être présente. Mais même si elle n'est pas là pour vous parler ce soir, on la remercie parce qu'elle a réalisé un travail énorme. Elle a largement contribué à mettre en place cette émission, donc on pense à elle. Donc, à mes côtés ce soir, j'ai Johan et Diba, à qui je vais laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter eux-mêmes. Johan, si tu veux commencer.
Ouais, alors, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Johan, doctorant en histoire, mais ce soir, je vous parle surtout depuis un point de vue de tétraplégique, donc en fauteuil roulant et avec quelques petits problèmes aux mains. Voilà, à toi, Diba.
Ben donc, moi, c'est Diba, je suis prof des écoles et ce soir, moi, je vous parle en tant que malade. J'ai une maladie génétique et invalidante, voilà. Du coup,
D'accord, du merci coup, à tous les deux. Comme je l'ai un peu annoncé en introduction, l'idée de ce soir, c'est vraiment donc de présenter le concept de validisme et ses enjeux en termes de militantisme, de ce que ça signifie de concevoir la société comme validiste et de prendre au contraire une perspective anti-validiste. Ça fait beaucoup de validistes. Alors, le validisme, c'est un terme qui commence à se diffuser, mais qui n'est peut-être pas clair en fait pour vous qui nous écoutez, auditeurs, auditrices. C'est l'oppression et la discrimination envers les personnes handicapées. Diba, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment cette oppression est prise en compte par la société et ce que l'anti-validisme signifie finalement ?
Oui, alors je vais commencer déjà par présenter comment le mouvement anti-validisme est né. Enfin, du coup, c'est assez récent en France, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose de connu depuis un moment. En France, le collectif militant le plus ancien, c'est le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, et qui a seulement 4 ans. Alors, il y avait des militants et des militantes surtout, qui développaient déjà ce thème depuis longtemps, mais réellement organisé en tant que collectif, voilà, c'est seulement 4 ans. Et par cette histoire très récente en France, la lutte anti-validisme est toujours niée, et en particulier, par exemple, dans la politique, ou à droite, comme avec notre ministre, enfin notre secrétaire d'État Sophie Cluzel, qui est quand même en charge de la question du handicap, qui a affirmé ne pas reconnaître le terme de validisme, car cela opposait les personnes valides aux personnes handicapées, et que ça cristallisait des dysfonctionnements. Ou encore à gauche aussi, on a des problèmes avec le validisme, comme François Ruffin par exemple, qui dans ses groupes de travail à l'Assemblée a soutenu par exemple l'institutionnalisation, et ce qui va à l'encontre notamment du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, ou encore un texte qui vise à empêcher des personnes handicapées à pratiquer l'emploi direct au prétexte que cela nuirait aux conditions de travail des salariés. La parole des militants et des militantes est également trop souvent exclue des lieux de lutte, et en particulier des manifs, alors qu'elles ont beaucoup à dire. Et d'ailleurs, dans le chat, on va vous mettre là un lien vers un excellent document qui vise à rendre les lieux de lutte inclusifs. Et donc ça, c'est peu importe que vous soyez milité en syndicat, en asso, ou c'est un super document justement pour rendre votre organisation réellement réellement inclusive.
Oui, il y a un problème avec ça. En fait, que ce soit dans le travail, on en a plus conscience, mais aussi dans les luttes sociales, il y a toujours cette recherche de la performativité qui va faire que les personnes avec des problèmes de handicap vont être facilement écartées, puisqu'on sent qu'on va pouvoir donner le meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui trouble beaucoup les associations qui ont envie, elles, d'être le plus combatives possible. Et c'est un problème qu'on a particulièrement en France, peut-être. Et ce sont d'ailleurs dans les universités anglo-saxonnes que de nouveaux modèles ont été inventés pour penser leur rapport au handicap, pour repenser ce rapport.
Merci Johan. Effectivement, c'est vraiment un point très important, en tout cas pour cette lutte anti-validiste. Et donc, après avoir présenté un peu le décor dans lequel on évolue, je vais vous lire une définition du validisme, donc par Fiona Campbell, qui est maîtresse de conférence en études sur le handicap à l'université Griffiths en Australie. Et sa définition est plutôt reconnue dans le milieu de la lutte anti-validiste, où elle dit que donc le validisme, c'est un réseau de croyances, de processus et de pratiques qui produit un type particulier de soi et de corps, donc la norme physique, et le projette comme parfait, spécifique à l'espèce, et donc essentiel et complètement humain. Le handicap est alors un état inférieur de l'être humain. Donc voilà, ça c'est vraiment le corps quoi du validisme, et un de ses collègues qui est chercheur dans la même université, Paul Harper, soutient que le terme validisme est une étiquette puissante parce qu'il est capable de provoquer un changement de sens dans l'utilisation des stéréotypes négatifs et de faciliter le changement culturel en concentrant l'attention sur le discriminateur plutôt que sur la victime ou le handicap. Et donc, cette définition, ça permet de faire un lien étroit entre le modèle médical du handicap et donc le modèle dans lequel on vit à l'heure actuelle et le validisme. On comprend aussi que ce lien avec toutes les autres oppressions qui ont été une base commune, la base commune d'un processus d'infériorisation d'un groupe humain. Cette infériorisation est construite à partir d'un idéal ou d'une norme, et ça, on le retrouve dans d'autres luttes. Donc, la norme actuelle, ici, on l'entend régulièrement, blanc, homme, cis, valide, etc. Et donc, les mécanismes sont également communs à toutes ces oppressions, comme toutes les oppressions, donc de la ségrégation, de l'exclusion, et avec, évidemment, quelques spécificités dont on vous parlera un peu plus tard.
D'accord, merci beaucoup Diba pour cette présentation qui était super pertinente et puis très, très précise en même temps. Moi j'ai une question, c'est comment ça s'exprime concrètement en fait, ce validisme ?
Pour prendre un petit exemple, par exemple dans ma vie quotidienne, un cas que l'on remarque très fréquent, parce qu'on a aussi parlé venant d'autres personnes en situation de handicap, c'est que c'est cette personne que tu connais pas du tout et qui, quand elle t'aborde, elle va te renvoyer directement à ton handicap. Par exemple, ça peut être aussi simple qu'un livreur qui arrive chez moi et qui me dit « pourquoi vous êtes en fauteuil roulant ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» C'est des choses assez qu'on peut comprendre en même temps, parce que les gens se disent « Oh ben merde, ça pourrait m'arriver à moi aussi. » Mais en même temps, qui peuvent être très agressives pour quelqu'un qui n'aurait pas, par exemple, pas fait le deuil d'un certain accident et simplement être vexé de tout ce qu'on voit en nous, c'est le handicap en fait. Et il y a des choses pour aller vers les femmes qui sont encore plus agressives. c'est que par exemple, une femme, on va lui demander et comment ça se passe les rapports sexuels venant de quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout. C'est, voilà ce qu'on va se permettre parfois avec des handicapés.
Ouais, des questions intrusives sur la vie personnelle qu'on ne poserait pas a priori à quelqu'un de valide, quoi.
C'est ouais. À l'époque de Jean-Luc Delarue, ils en faisaient même des émissions télé, hein, de justement l'intimité des personnes handicapées, comme si c'était un truc complètement fou, quoi. Du coup, ouais, c'est
les petites lubies des valides, quoi.
Ouais, exactement.
Et du coup, Diva, toi, tu voulais partager aussi.
Oui, bah oui, sur. Oui, voilà, c'est par exemple sur le fonctionnement même des, par exemple du monde du travail. Par exemple, moi. Dans un idéal, par exemple, j'aurais besoin d'un temps partiel aménagé, en fait, c'est-à-dire de pouvoir réduire mon temps de présence au travail pour pouvoir assurer correctement l'ensemble de l'année scolaire. Parce que régulièrement, en fait, mon corps dit stop et puis je suis obligé d'être en arrêt de travail. Et ça. Pour pouvoir bénéficier de ça, soit je le paye de ma poche, c'est-à-dire que je fais une demande de temps partiel et je perds pas mal d'argent, hein, enfin, et ce qui en soi n'est pas entendable parce que moi je veux juste faire correctement mon travail et puis il y a des dispositions normalement qui existent, sauf que par exemple, dans un ministère comme, en tout cas, l'Éducation nationale, c'est limité à 5 ans. Voilà, c'est-à-dire que pendant 5 ans, je pourrais, dans toute ma carrière, je pourrais bénéficier, par exemple, d'un temps partiel. Mais au-delà de 5 ans, c'est soit tu reprends un temps plein, soit en gros, tu changes de crèmerie. Et ça, c'est vraiment un truc... Qui est juste ahurissant, parce que la définition même, du handicap, d'une maladie longue durée, elle va pas partir, elle est là. Enfin, cinq ans après, j'y arrive pas mieux. Enfin, pas forcément moins bien, mais pas mieux non plus. Et à partir de là, c'est une inégalité. Ah oui, de traitement qui est parfaitement injuste, quoi. Et voilà, oui, vas-y.
Non, je dis qu'il y a un impact direct sur tes choix de carrière et tes possibilités, en fait, de travail, du coup, quoi.
Bah ouais, complètement, parce qu'en gros, c'est quel choix je fais, quoi. Est-ce que je fais le choix de venir un petit peu en pointillé travailler et du coup sur le dos malgré tout de la Sécu, parce que je suis en arrêt de travail. Donc en fait, voilà, c'est l'employeur au lieu de se dire j'emploie quelqu'un qui effectivement a besoin d'une adaptation, ça va me coûter un peu d'argent, mais sinon il va quand même assurer le boulot. Et ben plutôt que de mettre cet argent là, il va se reporter sur le budget de la Sécu, hein, clairement.
Et puis tes collègues aussi, ça leur fait à cause de ça.
Alors,
adapter ça.
Ah oui.
Pour être géré.
C'est ça, complètement. Et je vois, où normalement, par exemple, dans mon métier, on a, par exemple, en général, au mois de juin, on discute avec les collègues qui prend telle classe, ou voilà. Moi, clairement, j'ai pas trop le choix. C'est-à-dire que je prends en gros la classe où ça va moins pénaliser les collègues si je suis absent, si comme il manque des remplaçants régulièrement, ils vont devoir répartir les élèves, donc va falloir anticiper. Enfin, c'est-à-dire que avec mes propres collègues, je suis obligé d'anticiper un dysfonctionnement futur dans l'année. Enfin, on est dans ça me met dans une situation, ça me met dans une position d'infériorité vis-à-vis de mes collègues d'entrée de jeu en fait, ou parce qu'en fait la société en elle-même n'a rien prévu pour les gens dans mon cas en fait, et parce que je suis loin d'être le seul. Et voilà.
Donc si je résume un peu le problème du validisme, c'est l'idée que c'est pas à la société en fait de prendre en compte les individus dans leur diversité et leurs spécificités, mais aux individus de s'adapter à la norme imposée par la société, parce que ça marche pour le plus grand nombre, on va dire, quoi, même si ça reste encore à prouver, mais bon, ça c'est un autre problème. Et par exemple, donc du coup, pour rebondir là sur l'exemple du travail dont tu parles, Diba, la norme c'est le temps plein. Bon, déjà le terme temps plein de 35 heures ou plus, hein. Donc si en fait tu peux pas travailler 35 heures par semaine, la conclusion, on va dire implicite, hein, de la société, c'est que tu mérites pas un salaire correct au sens qui te permette de vivre correctement, quoi.
Ouais, c'est exactement ça la conséquence de la société du mérite, quoi.
Et que ce soit parce que handicap, parce que, enfin, il y a plein de d'éléments qui peuvent rentrer en compte, mais là on parle bien sûr dans le cadre du handicap et du validisme, et c'est vrai qu'en fait on revient toujours dans les discriminations, on revient toujours à ce rappel à la norme en fait, quelle que soit cette norme. D'ailleurs, du coup, Johan, je me permets de transitionner. Je crois que tu voulais apporter des éléments de réflexion au sujet de la comparaison à la norme, justement.
Oui, voilà, parce que cette norme, elle est toujours utilisée avec l'argument de la nature, qui va servir à ancrer ces processus sociaux qui ont fabriqué des normes. Grâce à lui, on va abolir la complexité des actes humains et supprimer les contradictions qui pourraient émerger. La nature, elle va servir à prouver le bien fondé de toutes les dominations, notamment, par exemple, le sexisme ou le racisme. Par exemple, on va vouloir ramener le genre humain au binarisme des deux types de gamètes, dont les possibilités d'expression sont pourtant multiples, puisqu'elles sont influencées par notre environnement, mais on va, en les renvoyant à la nature, on va obliger le corps de l'autre à être, par exemple, mâle ou femelle. Et un corps qui est ainsi dominé, comme celui du corps déficient, qui va être empêché, on va l'handicaper, l'exclure d'un monde qui n'est pas fait pour lui. Et de telles dominations impliquent aussi une démarcation qui doit être la plus nette possible entre le dominant et le dominé. Ainsi, il en va du sexe biologique, grâce auquel on veut vous placer d'un côté ou de l'autre du genre binaire, homme ou femme, et ou encore par rapport à la ligne de couleur qui veut séparer les blancs des non-blancs pour qui la société n'aura pas les mêmes attentes. Et dans le cas du validisme, on a le même binarisme qui va être valide contre non-valide, qui est décrété du fait de la visibilité, de votre déficience. Par exemple, avec une canne d'aveugle ou un fauteuil roulant, on va vous décréter non valide. Et ce binarisme qui va discriminer dans chaque bord entre des déficiences invisibles que l'on ne reconnaît donc pas, qu'on ne va pas les voir directement, on va dire celui-là, il est valide, et ceux qui sont trop visibles, entre guillemets, et dont on va faire de cette invalidité leur seule identité, comme je vous disais tout à l'heure avec la personne qui va pouvoir en fauteuil roulant, qui va devenir invalide et le handicap va être votre première identité. Et l'abandon de cette binarité valide-déficient est aussi ainsi bienvenu pour le sujet handicapé, puisqu'il ne serait plus défini seulement en tant que l'autre opposé au valide, entre guillemets, normal. En voulant rompre avec une binarité comparable, masculin-féminin dans son cas, la théorie queer a donné quelques outils pour l'antivalidisme et donne naissance notamment à la théorie CRIP, dont a beaucoup parlé la docteure en philosophie Charlotte Puiseux, que je vais vous citer. Donc, s'inspirant alors du concept queer de désidentification, le fait de ne plus garder une seule identité, la théorie CRIP propose de repenser le rapport entre validité et handicap, non plus en termes d'opposition binaire, mais en termes de continuum. Fin de citation. Donc, plutôt que d'envisager un handicapé toujours totalement invalide et un valide parfait, on va pouvoir penser une multitude d'entre-deux pour mieux comprendre tout le monde. Notamment dans le cas du handicap invisible, qui est incompris d'une partie de son environnement social, ça va être important de pouvoir situer, non plus simplement en tant que valide parfait, mais qu'on puisse comprendre qu'il a quand même des soucis. D'ailleurs, Diba, tu m'avais parlé de ta gestion des transports en commun qui peut être compliquée du fait de ton handicap qui est invisible.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui va être problématique. Par exemple, dans des transports en commun, quand ils sont bien remplis, aux heures de pointe, tout ça, c'est quelque chose de compliqué parce que moi, à un moment donné, je vais devoir m'asseoir parce que je vais pas pouvoir rester debout, mon corps me le permet pas. Et il se trouve que j'ai pas encore 40 ans, visuellement j'ai l'air en bonne santé, et du coup je vais devoir régulièrement me justifier, ou alors que j'ai pas à donner mon CV, j'ai pas à donner qui je suis, des parfaits inconnus. Ça pour le coup c'est un vrai problème, et c'est vrai que on va des fois nous répondre s'il y a besoin, vous appelez le bus spécial ou le transport en commun spécial qui je vais pas prévenir 48 heures à l'avance, si j'ai besoin de bouger quelque part, je dois pouvoir bouger quelque part comme n'importe qui. Et ça, c'est des choses, ça va vite devenir compliqué, quoi. Je te rends la parole, Ivan.
Mais cette vision d'un continuum, elle peut aussi permettre à d'autres de trouver leur place. Par exemple, on peut penser à ceux qui vont avoir un certain handicap, mais temporaire, que ce soit une maladie ou une blessure, par exemple. Ou aussi par rapport à l'âge. Bien sûr, en fonction de son âge, on ne va pas toujours rester un valide parfait. Et ainsi, plus qu'un continuum en une dimension sur laquelle on va se déplacer au cours de notre vie, il pourrait être plus parlant encore de penser à un plan en deux dimensions, voire un espace en trois dimensions dans lequel on se déplacerait, et chacun n'est pas forcément au même grade, entre guillemets, d'invalidité selon les activités. Par exemple, ne serait-ce que dans la mobilité, pour revenir toujours à ce petit pan, mais qui est particulièrement important dans le handicap, des handicaps différents vont se trouver très différents face à une marche à monter. Par exemple, une marche à monter, ça ne va pas être un problème pour Diba. Mais pour moi, en fauteuil, c'est une belle marche, ça va être impossible, tout simplement. Je vais être complètement coincé. Et contre un grand parcours plat, par exemple, à faire sur la route ou sur un chemin, moi, je vais pouvoir facilement le faire avec mon fauteuil. Et là, ça va être beaucoup plus un problème pour Diba, qui, si jamais il est en crise de douleur. Donc, c'est les choses sont très différentes et donc forcément, on n'est pas simplement valide ou invalide, même pas à des grades particuliers. Selon nos activités, en fait, ça va être totalement différent.
Oui, en fait, le handicap est toujours aussi conditionné à l'environnement, quoi. Enfin, comme tu le dis, en fonction parfois des crises de douleur, parfois du moment de la journée ou de l'activité, entre guillemets, à laquelle on peut être confronté. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis aussi sur le fait que le handicap est parfois temporaire, c'est-à-dire que si on se casse une jambe, on va être temporairement handicapé parce qu'on aura une difficulté de déplacement. Et voilà, il y a vraiment, enfin, y a, voilà, c'est vraiment un concept qui est très très fluide et très très complexe, etc. Après, c'est vrai que je pense que quand on parle de validisme, forcément, c'est les personnes qui vivent avec au quotidien et de manière, j'ai un peu envie de dire, pour toute la vie entre guillemets, pour qui le validisme existe vraiment, quoi. Parce que pour le coup, c'est une remise en cause aussi. Voilà, de vos identités et de vos potentialités dans la vie, quoi. Comme tu dis, être réduit à son handicap ou voir son handicap nié en fonction de notre situation. Du coup, si j'essaie un peu de résumer, bref, ce qui a été dit, c'est qu'en fait, la société crée en fait deux cases, quoi. Une case valide, une case handicapée. Alors qu'en fait, chaque individu se situe sur ce que tu as appelé, Johan, un continuum, enfin, est-ce qu'il est appelé dans la théorie un continuum, où parfois en fait il serait bien, il est impossible de savoir exactement où commence le handicap, quoi, parce que finalement voilà, c'est des choses assez assez complexes. Et ce qui ne veut pas dire par ailleurs que tout le monde est handicapé ou qu'il n'y a pas à se battre pour le droit des personnes qui ont des handicaps. Hein. Ça c'est pas du tout le sujet, mais c'est plus complexe que juste un concept binaire, quoi, noir ou blanc. Où on pourrait juste mettre des gens dans des petites cases. Du coup, je vais jeter un petit coup d'œil du côté du chat. Il n'y a pas forcément grand monde. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des commentaires, à les poser ou à raconter ce que vous vivez. Et peut-être, si vous êtes concerné dans le chat, on viendra faire un petit tour pour voir, voilà, pour voir ce qu'il en est, si vous avez éventuellement des remarques ou des questions, des choses à dire. Du coup, on va revenir, hein, sur cette idée de rompre le binarisme que Johan a évoqué. Mais l'émission avance, et du coup, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, toujours punk rock, avec le titre « I Don't Wanna » de Radical Kitten. Bonsoir, alors vous êtes sur Radio Pirate et ce soir on vous parle validisme ou anti-validisme d'ailleurs avec Diba et Johan. Alors avant la pause musicale, Johan nous expliquait la logique binaire en fait derrière l'oppression validiste, une logique où il y a un autre, entre guillemets, un autre handicapé qui est défini donc par rapport à la norme valide. Donc ce dont tu nous parlais, Johan, c'est une conception théorique en fait hein, de cette binarité, mais concrètement, qu'est-ce que ça donnerait un monde où on aurait rompu ce binarisme?
Cette idée, c'est l'idée du modèle social qui va s'opposer au modèle médical qui, lui, décrète que si tu as une incapacité, tu n'es plus « bon » entre guillemets pour la société, qui ne peut donc pas complètement t'intégrer. Le modèle médical, il a une histoire. Le traitement du handicap, en effet, est très ancien. On a découvert, par exemple, des prothèses entre guillemets, hein, qui date d'il y a plus de 3000 ans. Mais un point central de ce modèle, c'est l'institutionnalisation des personnes que l'on considère invalides. Il va de pair avec le modèle de la charité chrétienne, notamment, que l'on voit notamment avec les personnes lépreuses dès le 9e siècle, qui portaient le stigmate d'une cape et une cloche et qui devait avoir un petit verre en bois pour que les patients, incités par la charité chrétienne, puissent les remplir d'eau, de nourriture ou encore d'offrandes en argent. Petit à petit, des maisons des lépreux se créent dans toute l'Europe, dans les grandes villes, mais de plus en plus à l'extérieur des grandes villes, isolées. Et progressivement, on y enferme aussi tous ceux que l'on va appeler des fous, avec des multiples guillemets, hein, et des personnes ayant des divergences politiques même, ou des femmes qu'on appelle hystériques. La gestion par la société de ceux qu'elle appelle invalides va changer au siècle des Lumières. On va alors davantage chercher à comprendre les déficiences qui les handicapent, mais toujours en les tenant à l'écart. Et c'est notamment le rôle, à cette époque-là, des asiles psychiatriques. C'est donc une histoire eugéniste qui n'a jamais pris en compte les demandes des personnes concernées. Nous avons notamment été relégués à un statut passif où l'on se devait d'accepter notre situation, de faire avec. Parfois en cachant notre statut, par exemple, ce qui est possible avec les handicaps invisibles pour échapper à cela. Et c'est quelque chose dont on a parlé en fait tout à l'heure, Diba, ce modèle de la charité chrétienne, en quelque sorte.
Oui, voilà, avec la secrétaire d'État, hein, ou avec Ruffin qui veut aussi garder loin des yeux, loin du cœur, voilà, hein, pour qu'il ne dérange pas. Et on peut évoquer aussi dans ce grand mélange quand même le Téléthon, quand même cette grand-messe du handicap où c'est vraiment le truc où pendant 30 heures par an le handicap est mis à l'honneur, il y en a pour tous les goûts et là encore c'est quelque chose où justement on est plusieurs à s'opposer à ça sur l'injonction à être heureux, l'injonction à vouloir guérir, hein. Je sais pas si vous avez déjà regardé le Téléthon, mais on est vraiment là-dedans et c'est vraiment quelque chose qui date vraiment de cette fameuse charité chrétienne où on doit donner pour les vraiment les malheureux, hein. Regardez, vous pensez avoir des problèmes là derrière votre petit écran, mais regardez là tout la brochette qu'on a ramenée, il y a pire, et voilà, et il y a vraiment cette notion là qui est vraiment insupportable et qui vraiment abîme totalement justement l'image qu'on pourrait avoir du handicap dans la société en fait, et parce que du coup ça exacerbe vraiment cette notion voilà de pitié et puis ben voilà d'être inférieur, de pas de bol, etc. Alors que bon ben non, c'est la réalité, elle est pas là quoi. Et c'est vraiment et voilà, c'est vraiment ce principe qui est contre lequel on lutte quoi. C'est vraiment ultra validiste quoi.
C'est toujours le concept de ce binarisme qui va exclure, donc en tendant à opposer des soi-disant valides à des entre guillemets handicapés. Mais il existe d'autres manières d'envisager le handicap pour rompre avec ces problèmes. Je vais vous citer une des premières sociologues à théoriser son vécu d'handicapé elle-même de cette manière, Jenny Morris, qui disait donc « Le modèle social du handicap nous donne les outils, non pas seulement pour faire face aux discriminations et aux préjudices auxquels nous faisons face, mais également pour articuler et mettre en perspective nos vécus du handicap. » Donc ça, c'est dans l'introduction de son article, je vais vous le nommer en anglais malgré mon accent, il s'appelle « Impairment and Disability, Consulting an Ethics of Care which promotes Human Rights ». En fait, ce modèle social du handicap permet de penser que le handicap est en fait une construction sociale. Les personnes handicapées possèdent tous des caractères physiques, psychologiques, issus d'une maladie ou d'un accident qui va donc leur poser des problèmes. Mais ce ne sont pas exactement ces caractéristiques qui handicapent cette personne. Son handicap, selon cette vision-là, serait dû à leur environnement qui n'est pas adapté à cette déficience. C'est donc un renversement de l'échelle et de la perspective, car une personne à mobilité réduite, pour prendre un exemple par exemple rapidement compréhensible et classique, une personne à mobilité réduite n'est pas handicapée par essence. Elle est handicapée par le fait que avec son fauteuil, elle va faire face à des problèmes. Ce qui va la handicaper, c'est la construction sociale autour de sa mobilité. C'est le choix conscient ou non, mais volontaire de la société de construire, par exemple, des escaliers partout et des marches là où il n'y en a pas forcément besoin. C'est le choix aussi de ne pas mettre d'ascenseur systématiquement là où il y a des marches. Je pense par exemple aux lignes de métro qui sont un vrai problème. Et c'est aussi du manque de volonté de faire des trottoirs plus larges ou de proposer une loi qui adapte 100% des logements, notamment ne serait-ce que pour les normes de largeur des portes, qui sont souvent un problème en fauteuil roulant, par exemple. Et on peut continuer encore très longtemps avec une telle énumération. Il faut savoir tout de même que cette accessibilité ne ferait pas que profiter aux personnes à mobilité réduite utilisant un fauteuil toute leur vie. Les ascenseurs, tout le monde peut en profiter. Les personnes âgées aussi, les parents avec une poussette, des gens qui font leurs courses, ou comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui s'est cassé la jambe. Comme cela peut arriver à tout le monde. L'accessibilité n'est donc pas un problème des minorités, mais une solution pour le bien général. On peut aussi penser que des toilettes accessibles profitent aux personnes âgées, que des trottoirs plus larges vont permettre un plus grand espacement de la foule, et les personnes anxieuses aussi ne se sentiraient pas donc ainsi plus en sécurité, moins obligées de se coller à tout le monde sur un petit trottoir. Ou particulièrement aujourd'hui, on peut aussi penser avec des plus grands trottoirs, ce qui pourrait vous aider, c'est pour respecter la distanciation physique qu'on nous demande actuellement. En France, ce champ de recherche est encore balbutiant. Comme je vous disais, la recherche française est seulement au tout début. Mais le savoir militant est déjà très riche et la lutte contre les autres dominations profite aussi à notre réflexion sur le validisme, notamment lorsqu'elle refuse les formes de socialisation qui vont être majoritairement masculines et blanches, qui sont très normées dans la domination de l'autre, toujours dans l'humiliation, entre guillemets, du plus faible.
Ouais, merci beaucoup, Johan. Ce dont tu parlais, là, ça me fait penser... Je regarde des émissions d'architectes et d'architecture, voilà, vous savez tout. Et en fait, il y avait une des émissions, en fait, c'est des gens qui construisent des maisons un peu sur mesure. Et il y avait une des émissions où c'était une personne qui était en fauteuil roulant et qui avait construit sa maison, adaptée, en fait, pour sa vie au quotidien. Donc c'est complètement un luxe hein, de pouvoir construire sa propre maison sur mesure, hein, on est d'accord. Le mec avait un niveau de vie assez élevé. Mais du coup, justement, c'était intéressant son rapport, parce qu'en fait, il disait que ça avait complètement changé sa vie, puisqu'en fait, il avait vécu... Avant, il vivait dans une maison qui n'était pas du tout adaptée à la vie en fauteuil roulant. Tout son quotidien était complètement simplifié, en fait. Comme une personne qui ne vit pas en fauteuil roulant dans une maison classique, on va dire. Et en fait, il ne ressentait plus chez lui, dans son quotidien de sa maison, il ne ressentait plus son handicap, justement, quoi, physique. Du coup.
Le problème dans ce cas-là, c'est qu'il a dû faire ça lui-même. Il a fallu qu'il prenne l'initiative et avec des moyens suffisants.
Le problème,
c'est qu'on ne partage. Et ça ne va pas être pour tout le monde.
Non, c'est mais c'était... clairement, de toute façon,
c'était possible. Voilà.
C'était un privilège. clairement, de toute façon, il a vu la maison déjà. Au final, il avait un niveau de vie très élevé. Mais par ailleurs, voilà, c'est assez, comment dire, éclairant sur le fait que avoir. Je vous le dis à vous, mais vous savez.
Ça montre que c'est possible, en fait.
Voilà, déjà c'est possible, il faudrait que ce soit accessible à beaucoup plus de personnes et surtout, voilà, ça veut bien dire que le handicap n'est pas une malédiction en soi. C'est une question d'adaptation et de prise en compte et de solution en fait. Qu'on
peut oui.
Tout simplement.
Ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire des transports en commun, tu vois, à 8h du matin, avec tout le monde présent, je vais être handicapé. À 10h du matin, quand tout le monde a embauché, si je suis dans les transports en commun, je suis plus handicapé, parce que là, je peux m'asseoir où je veux, il n'y a plus un chat dedans, tu vois. Et qu'est-ce qui fait qu'en 2 heures, je vais passer d'un statut à l'autre? Non, c'est bien, ça veut dire que c'est bien le monde qui nous entoure qui nous handicape, quoi. Il y a des emmerdes au quotidien, forcément liées. Mais franchement, c'est pas ça le plus emmerdant. Le plus emmerdant, oui, c'est de voir ce qui nous entoure et qui nous emmerde plus finalement que ce qu'il y avait au départ, quoi. Et puis comme tu disais, suivant le statut social, et là on revient toujours aux manières de cette société capitaliste, quoi. On est tous inégaux et puis certains sont encore plus inégaux que d'autres. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est handicapé mais plein de pognon, il vivra forcément mieux que... Mmh. Voilà.
Ouais, carrément.
Voire mieux qu'un valide sans pognon.
Oui, voilà. Clairement, largement, ouais. Ça aide sur certaines choses. Ouais. J'ai fait un petit tour sur le chat. Je vais dire ce que j'y ai lu et puis vous réagirez si vous avez envie. Mais il y a Cute qui dit qu'elle a une amie qui utilise un fauteuil roulant et qu'elle, du coup, ça revient un peu, pas vraiment ce que tu disais sur le handicap invisible, mais un petit peu finalement. Et qu'en fait, quand elle fait ses courses, quoi, mais qu'elle peut quand même se lever, elle a juste des douleurs, quoi, et qu'en fait, quand elle se lève pour prendre des trucs dans le magasin ou quoi, elle se fait engueuler, en fait, par des gens, parce que les gens comprennent pas qu'elle puisse se lever de son fauteuil roulant à un instant T quand elle a besoin.
Parler de ça, oui. C'est le handicap invisible qui devrait rester invisible, quoi. T'as pas le droit de montrer avec un fauteuil, sinon tu prends la place d'un autre qui mérite vraiment son fauteuil parce que lui, il ne bouge pas du tout.
Là, moi, je trouve que ça illustre ultra bien ce que disait Johan sur la binarité, en fait. C'est en gros, soit tu es handicapé, soit tu n'es pas. Mais
peux pas
du
être
coup,
un peu des deux, quoi.
Voilà, là pour eux, c'est le handicapé de Schrödinger, tu vois. debout, assis. Là, faut, en gros, décide-toi. Et enfin, ouais. Soutien à son ami. Hein.
Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on entend pas mal de gens parler de ce genre de situations qui sont, je pense, courantes, puisque ça doit arriver souvent dans les magasins ou des, à des moments comme ça, quoi.
Oui, bah, les lieux de foule, quoi. Ouais.
Du coup, il y a aussi quelqu'un qui mentionne les aménagements à la fac pour les personnes handicapées, et notamment que parfois les profs prennent un peu leur. Enfin, que c'est parfois un peu au bon vouloir des profs, quoi, par rapport aux examens ou à des choses comme ça, surtout, j'imagine, dans cette période où beaucoup de choses se font à distance. Donc c'est vrai qu'il y a aussi. On en avait parlé pour le coup avec Charles et Coca quand on avait fait l'émission sur le handicap psychiatrique, sur la difficulté en fait de faire respecter les aménagements pendant les études notamment. Mais je pense que ça fait un peu écho avec ce qu'on disait par rapport au travail aussi. Parce que c'est un peu.
Le problème, c'est que la fac, elle peut être adaptée, mais tu ne peux pas y accéder à la fac parce que le métro et le train, eux, ne sont pas adaptés. C'est toujours le problème des adaptations, c'est que s'il n'y a qu'un seul élément de la branche, bah, finalement, ça ne suffit pas et ça ne sera pas utilisé.
C'est un chaînon, quoi. Dès qu'il manque une maille au chaînon, ça devient galère.
Exactement.
Et du coup, merci à Cropochou qui nous dit qu'il n'a pas de questions, mais qui nous écoute avec attention parce que c'est très intéressant. Donc, je pense qu'on peut presque finir là-dessus parce que voilà, je pense que c'est sympa. Avant de conclure, je ne sais pas si vous vouliez dire un dernier mot, Johan ou Diba, si vous avez quelque chose à ajouter.
Moi, c'est bon. On a fait un bon petit tour.
Ouais. Ok, ça marche.
Il y aurait plein de trucs à dire, mais voilà.
Oui, voilà, c'est clair que...
Au prochain confinement.
Tout à fait, ça ne va pas traîner de toute façon.
C'est ça.
Donc du coup, voilà, on atteint... Il est 21h50, il est temps qu'on remballe un peu tout. C'était dense, hein, du coup, c'était intéressant. On a encore plein de choses à dire, comme tu dis, Diba, c'est un sujet qui mériterait qu'on prenne le temps d'en parler... Voilà, beaucoup plus, surtout que c'est pas toujours pris suffisamment du tout en compte. Du coup, je veux juste prendre le temps de remercier Ellie, qui n'était pas avec nous ce soir, mais qui a bien travaillé sur cette émission. Donc voilà, elle n'aurait pas existé comme ça, en tout cas, sans elle. Et merci aussi, du coup, à vous deux, Johan et Iba, merci d'avoir été là ce soir. Du coup, bah, comme tous les soirs, merci à Florian, à la technique, merci à la modération, merci aux personnes qui feront le podcast après, merci à toute l'équipe de Radio Pirate qui est derrière nous, sans laquelle les émissions n'existeraient pas. On vous rappelle que Radio Pirate diffuse tous les soirs à 21h. Demain, les camarades d'équipage ont prévu de vous parler des initiatives solidaires pour remettre un peu de chaleur hein, dans ce climat social glaçant. Et pour se rappeler de faire des choses aussi, collectivement, ensemble, c'est important. Et jeudi, retour à la dure réalité de l'actualité avec une émission sur les dérives sécuritaires, notamment donc sous le gouvernement actuel, mais les camarades vous en diront plus. N'oubliez pas que les émissions, c'est aussi des podcasts diffusés sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, bref, comme vous voulez. On se quitte avec Boogie Rats du groupe Zarathustra Show, je vais y arriver. Merci à tous les artistes hein, qui ont autorisé à diffuser les musiques. C'était vraiment chouette d'avoir toutes ces musiques à vous passer. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée Johan, bonne soirée Diba. Et à demain sur Radio Pirate. Au revoir. Go!
boogie.
Un pot de départ tous les jours ou deux.
I do the rat, I'm a boogie rat.
De plein de pays, pote est toujours mieux.
Do the rat, boogie.
Photosynthèse, on plonge en pluvieux.
Do the right boogie.